Bonjour, bienvenue au podcast J'ai des questions. Je m'appelle Mindy et aujourd'hui, je suis heureuse de partager avec vous la conversation que nos animateurs Christina et Paul ont eue avec notre collègue Élisabeth Lecavalier sur l'Évangile. Originaire de Laval, Élisabeth Lecavalier découvre les plaisirs de la vie urbaine depuis 5 ans avec sa sœur à Côte-des-Neiges. Elle s'est jointe à l'équipe de P2C étudiants il y a 12 ans après avoir terminé des études en gestion à l'Université Concordia. Aujourd'hui, Élisabeth est détentrice d'une maîtrise de la Fuller Theological Seminary. Elle est passionnée d'aider les jeunes adultes à connaître Christ autant dans son travail qu'à son église locale, et son cœur résonne tout particulièrement pour les peuples post-chrétiens. C'est pour ça qu'on trouvait qu'elle était la bonne personne pour répondre avec nous à la question « La bonne nouvelle, est-ce que c'est vraiment à moi d'en parler? Est-ce que c'est ma place de convaincre? C'est-tu vraiment si urgent que ça? » Qu'est-ce qu'on fait si la personne ne veut rien savoir? C'est le genre de questions qu'on se pose dans cet épisode de J'ai des questions. Cet épisode est la deuxième moitié d'une conversation en 2 parties que nous avons enregistrée avec Élisabeth sur le sujet de l'Évangile.
Bon, j'ai une question bonus pour toi, Lee. Je peux pas me retenir, faut que je te la pose. Puis là, on est en épisode bonus, fait que c'est le temps. La bonne nouvelle, est-ce que c'est vraiment à moi d'en parler?
Ben, qui voudrais-tu d'autre qui en parle? Tu sais, mettons, qui d'autre pourrait en parler? C'est pas nous, tu sais. Donc,
Un ange.
Un ange?
Les nuages. Dieu pourrait descendre. Les gens rêvent de Jésus.
OK.
La bonne nouvelle pourrait parler.
Ça arrive dans certains pays, certains contextes. Toi, t'as dit quoi?
La bonne nouvelle pourrait parler d'elle-même. Mm-hmm. Pourquoi est-ce que c'est à nous de convaincre?
Ouais. On pourrait juste comme mettre l'Évangile partout sur plein de posters puis laisser les posters faire leur job. C'est un peu ça?
Avec les réseaux sociaux aujourd'hui, ce serait plus que facile a priori.
Ouais.
Il y a aussi, on lance plein de choses, là, mais il y a aussi la citation que beaucoup, 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 beaucoup de personnes aiment bien dire, qui est, c'est quoi? C'est comme, qu'il faut que ta vie parle de l'Évangile, puis au besoin.
Ouais, c'est comme, prêche l'Évangile en tout temps, et si possible, utilise des mots.
Non, c'est au besoin, utilise des mots.
Oui, au besoin. Ouais,
seulement si nécessaire.
Donc là, cette citation-là qui est...
François d'Assise.
Attribuée à Saint François d'Assise, mais qu'il n'a pas vraiment dit ça, si on lit comme il faut ses œuvres. Mais oui, c'est une perspective qui revient pas mal, peut-être un peu plus aussi auprès de la génération actuelle, la génération Z. On aime beaucoup, beaucoup. Les paroles veulent dire quelque chose. À quelque part, c'est pas complètement faux, mais c'est plus l'idée que vraiment, tantôt je disais, il faut que mes paroles s'alignent avec mes actions et vice-versa. Je pense que dès qu'on essaye de diviser cet aspect-là, tu sais, qu'on dise que finalement c'est les paroles qui sont les plus importantes, ou c'est mon comportement, mon agissement, mes actions, à quelque part, on divise ce que Dieu a uni, je trouve. Donc, c'est les deux ensemble qui... Parce que je peux pas mimer l'Évangile. Non, mais tu sais, je peux pas... C'est pas évident à ce point-là, tu sais, je veux dire. Je peux pas mimer que Jésus est mort, ressuscité, puis que tout le monde doit l'accepter comme leur sauveur et Seigneur. Ça se mime mal. Vous essayerez ça la prochaine fois à un petit jeu, là, de mime, là, qu'on fait des fois, là. Vous essayerez ça, de mimer ça, là. C'est pas facile. Ça se fait mal. Puis je pense, j'en reviens encore à l'illustration que j'ai donnée dans l'épisode principal. Comme N.T. Wright, une des choses qu'il a dit, c'est que l'Évangile a seulement du sens dans un contexte précis. Donc, moi, là, je sais pas, je vais donner 2 exemples, OK? Moi, là, je suis un héros, mais pas un héros comme héroïne, là, comme Spider-Man, là. Héros, genre une personne qui dit « Oh yeah, oh yeah », OK? Un héros médiéval. Tu sais, mettons que je suis cette personne-là, puis je suis de l'époque de l'Empire romain, puis là, écoute, je porte la bonne nouvelle que Octave a gagné sur les forces de Marc-Antoine. Admettons, c'est ça mon discours, OK? Parce que si on revient à l'autre épisode, ce que je viens de dire va faire beaucoup plus de sens, guys, OK? Dans le fond, t'as deux personnes dans l'Empire romain. il y a un qui gagne, et là, le message, la bonne nouvelle, c'est « un tel a gagné ». Puis là, ça apporte la paix, un peu. Gros résumé de la chose. Mettons que je cours sur la rue Sainte-Catherine aujourd'hui, en 2024. Puis là, que je dis ça, « Oyez, oyez, bonne nouvelle! Octave a gagné sur les forces de Marc-Antoine! » Qu'est-ce qui va se passer?
Tu vas te faire arrêter, puis on va t'amener à l'hôpital.
Il y a peut-être des gens qui vont te filmer au passage. Là.
Oui! Genre, ça fait aucun sens, ce que je suis en train de dire. Je suis complètement déconnectée du contexte originel, qui était comme au 1er siècle, même un peu avant. Je suis plus dans l'Empire romain. Tu sais, c'est comme, il y a tellement de couches. Je suis tellement loin, il y a tellement de strates, là. Puis là, je suis dans un autre contexte Noël, puis là, je m'attends à ce que tout le monde sache de quoi je parle. Mm-hmm. C'est pas très réaliste ou même fair, c'est pas juste.
Ouais.
Tu sais, donc c'est l'idée que l'Évangile a seulement du sens dans une histoire. Peut-être que si j'annonce à mon ami, écoute, Jésus est mort et ressuscité, puis tu dois l'accepter. OK. Mais Jésus, là, il sait quoi par rapport à lui? Est-ce qu'il comprend c'est qui Jésus? Qu'est-ce que je veux dire par Jésus? Pourquoi est-ce que Jésus devait mourir? Pourquoi est-ce qu'il a ressuscité? Hein? Les gens ressuscitent? Tu crois vraiment ça? Il y a tellement de barrières, là! Il y a tellement un écart!
Est-ce que tu essayes de nous dire, au fond, que l'évangélisation, ça se fait pas sur un coin de table?
Ben, ça se fait pas sur un coin de table, à moins que tu prends le temps d'expliquer le contexte et de le faire vraiment comme du monde. Parce que là, il y a plein de choses que tu présupposes par rapport à... Moi, là, je suis le héros qui crie, qui hurle que Octave a gagné sur Sainte-Catherine. Là. Je présuppose qu'ils savent exactement c'est qui Octave, qu'ils vont pas penser à un octave de piano, là, t'sais, qu'ils vont pas penser à ce mot-là. Je présuppose qu'ils penseront à l'empereur. T'sais, je présuppose ça. C'est peut-être pas juste de ma part. Je présuppose qu'ils savent exactement c'est qui Marc-Antoine puis que c'est pas mon voisin d'à côté. Je présuppose qu'ils sont très, très bien versés dans l'histoire de la Rome antique. Pas la Rome antique comme la romance, mais la Rome antique dans l'Antiquité. Comme, il y a plein de choses.
Oh!
Il y a plein de choses qui sont comme... D'où c'est que je sors, là, avec cette nouvelle-là, tu sais? Puis l'autre raison, c'est que j'ai du retard. Donc, il faut aussi que j'explique pourquoi je trouve que c'est pertinent aujourd'hui et pas juste comme au 1er siècle, il y a full longtemps. Donc, toutes ces choses-là, je dois l'expliquer, je dois élaborer, je dois donner le contexte. À quelque part, je pense que des fois, quand on dit, on fait juste crier sur la rue Sainte-Catherine, Jésus est Seigneur, les gens comprennent pas à cause de ça. Il y a trop de choses que je présuppose par rapport à leur connaissance, leur contexte, leur background. Est-ce qu'ils ont un background judéo-chrétien? Peut-être. Est-ce que ça... C'est quoi les limites? C'est quoi les... C'est un peu ça, ma question. Donc là, quelque part, si tu as à moi d'en parler, oui, mais... Il faut que j'explique le contexte. C'est pas juste, sinon.
Je comprends pourquoi. Un peu d'une certaine façon, je comprends qu'il faut qu'on utilise nos mots. On n'aura pas vraiment le choix, surtout dans notre contexte moderne où ce que les gens ne comprennent pas tout à fait. Puis je suis d'accord, hein. Tu sais, je te posais une coupe de colle, mais la réalité, c'est que, tu sais, je pense à mes voisins, puis on commence vraiment à avoir des beaux liens avec nos voisins, puis ils savent qu'on est chrétiens. Mais il n'y en a pas un seul encore qui est venu me voir pour me demander exactement le message de l'Évangile. Hey, Christina, je sais que tu es chrétienne. Peux-tu m'expliquer en 4 points, 5 points peut-être, si tu veux, exactement le message de ce que tu crois? Puis donne-moi aussi un point d'action, s'il te plaît, à la fin, pour que je puisse réfléchir. Tu sais, les gens, ils ne posent pas comme ça parce qu'ils ne savent pas qu'il y a un message, en fait, nécessairement. C'est ça l'affaire, c'est qu'à un moment donné, il faut que j'utilise mes mots pour expliquer ce que je crois. Bien que, comme je pense beaucoup d'entre nous, je pense que la raison pour laquelle on hésite un peu puis on est mal à l'aise avec cette idée-là de crier sur un coin de rue, c'est que si notre vie ne back pas puis elle soutient pas nos paroles, là, on est en contradiction.
Oui, tu as raison, Christina, mais en même temps, on sent qu'il y a peut-être une urgence. Il y a peut-être une urgence de donner ce message-là, puis en même temps, il y a le malaise de ne pas avoir le contexte pour donner un message urgent puis pas le donner en 2 minutes ou en 5 points avec un PowerPoint, tu sais. Mais on veut quand même le donner, mais bien le donner. Mais faut le donner. Fait qu'on est un peu tiraillé là-dedans, non?
Oui. Absolument. Puis justement, par rapport à ce que tu disais, Christina, tu dis « mon voisin m'a jamais cogné à la porte pour me demander c'était quoi le message ». Peut-être qu'il pense déjà savoir c'est quoi le message, mais qu'il pense que finalement, c'est pas le bon. T'sais, peut-être que le message de l'Évangile, c'est autre chose dans sa tête.
Mm.
C'est le fait que si je fais des bonnes œuvres, mais que Dieu va m'accepter en pesant le pour et le contre, le pour de mes bonnes œuvres et le contre de mes mauvaises œuvres, peut-être que c'est juste ça dans sa tête, le message. T'sais. Donc, des fois, les gens ne nous posent pas des questions parce qu'ils pensent déjà connaître les réponses.
C'est ça.
Mais si on leur dit pas, si on leur révèle absolument rien, ils vont juste continuer à croire des choses qui sont pas vraies, finalement, rapport à la foi chrétienne. Donc, c'est là aussi le rôle des mots. Je trouve qu'aujourd'hui, on a besoin de vivre des vies profondément belles. Hein. Et ça va être ça le point de départ, je crois, pour créer de la curiosité. C'est ça ma conviction personnelle. Dans un monde qui va pas être impressionné par de beaux messages éloquents, il faut attirer dans un monde qui valorise l'action, il va falloir que ça va commencer par la façon comment on gère notre vie, la façon comment on mène notre vie, la façon comment on traite notre prochain. Et je pense que c'est ça, dans un monde qui manque autant d'amour ou qui a une vision de l'amour qui, au final, est très verbale et superficielle.
Bien dit.
Donc, en vivant vraiment l'amour, et non pas un amour de « Ah, je suis obligé de donner aux pauvres, fait que je vais donner parce que je veux que Dieu m'aime ou parce que je veux projeter que je suis un bon chrétien. » Vraiment parce que tu l'aimes, le gars. Tu l'aimes. Donc, tu fais quelque chose, tu peux pas t'en empêcher. Je pense que ça va attirer l'attention. Ça, c'est weird. Ça, on voit pas ça souvent dans le métro, là, quand on passe. Donc, je pense que ça attire l'attention. Là, je donne un exemple, mais ça peut être n'importe quoi, tu sais. Une personne que dans un contexte où tout le monde triche, tout le monde va couper les coins ronds, et toi, tu dis non, même si ça me désavantage, je ne le ferai pas. What? Comment ça? Tu sais, ça attire l'attention, ça peut créer de la curiosité. Puis là, après ça, comme, peu importe parce que c'est eux qui demandent ou c'est toi qui offre, qui explique, ben les mots vont être utiles. Je pense que les deux doivent aller ensemble. Peu importe par où qu'on commence, qu'on commence par les mots ou qu'on commence par les actions, les deux doivent aller ensemble. Puis là, tu as bien dit, je trouve, Paul, par rapport à la tension entre si tu as à moi de convaincre à quelque part, oui. J'apporterai aussi la nuance que, ultimement, c'est pas ma job. Ultimement, c'est la job du Saint-Esprit, right? C'est pas à moi de forcer les gens à croire.
Absolument.
En fait, il y a personne qui est forcé dans cette histoire-là, si on comprend bien de quoi il s'agit. Mais à quelque part, oui, si j'aime quelque chose, si je suis passionnée par quelque chose, ça va paraître, puis je devrais être convaincant. Une petite affaire? Je sais pas, je connais personne qui capote sur de quoi puis qui est pas convaincant par rapport à ce sur quoi il capote, tu sais? Ma sœur, elle capote sur BTS, là, le groupe coréen. Elle arrête pas d'en parler, je t'écœurais. Non, mais vraiment, là, elle est passionnée de ça. Elle met ça tout le temps. Quand elle fait la vaisselle, c'est juste ça qui sort de la cuisine. Je connais les trucs par cœur, puis je parle pas le coréen. Tu comprends, là, comme ça commence à être pas mal. Mais ça paraît qu'elle aime ça. Mm. Alors, si elle est capable d'aimer un groupe... Un groupe artistique, un groupe musical, au point où est-ce que ça va paraître, nous, les chrétiens, est-ce que ça paraît qu'on aime Jésus? Donc, à quelque part, oui, ça devrait être convaincant. T'sais, à quelque part, si j'aime vraiment, si je suis vraiment passionnée, puis à quelque part, si je le suis pas, ben c'est comme, Seigneur, aide-moi à l'être. Seigneur, j'ai peut-être pas compris quelque chose.
Fait que finalement, tu nous dis un peu que, tu sais, pas pour boucler la boucle, là, mais pour revenir à ce que tu disais, que cette transformation, ce caractère éternel qu'on développe devrait servir finalement de terreau pour l'évangélisation.
Ben oui, parce que on peut seulement donner aux autres ce que nous-mêmes on a reçu. Donc si moi, je ne saisis pas l'ampleur de cette nouvelle-là pour moi-même, je vais difficilement transmettre ça, communiquer ça aux autres. Donc, je dois moi-même le vivre, puis voir la richesse, la beauté de la chose.
Mais je ne la saisirai pas jamais parfaitement. Là. Ça veut-tu dire que,
non.
Là, mettons, là, je suis dans un moment là, de sécheresse un peu, où, tu sais, ma foi est pas, tu sais, je suis pas en comme... Mais vous comprenez, là, j'ai peut-être pas lu ma Bible aujourd'hui, là. C'est-tu une bonne raison pour pas partager ma foi?
Ben, j'ai-tu déjà vu quelqu'un de passionné par rapport à Star Wars s'empêcher de parler de Star Wars juste parce qu'il avait pas écouté Star Wars la journée même? J'essaie de comprendre, là. Tu sais, c'est comme si on se dit que pour partager, il faut que j'aille comme, je sais pas moi, faut que j'aille un dossier exemplaire. C'est un petit peu ça qu'on imagine. Faut que je sois en règle avec Dieu, puis en règle, ça veut dire lire ma Bible le jour même. Mais c'est-tu vraiment ça que ça veut dire être en règle avec Dieu? Je reviens à l'Évangile. Je reviens à l'Évangile. C'est tout ça le message de l'Évangile. Je t'ai accepté parce que je lis ma Bible à chaque jour. Ou je t'ai accepté parce que je vais régulièrement à l'église. Ou je t'ai accepté parce que je connais... Quand le pasteur, il parle en avant, je comprends tout. Tu sais? Donc, j'en reviens à... Est-ce qu'on vit l'Évangile? Est-ce qu'on le vit jusque dans nos tripes? Donc là, pour revenir à ce que tu disais, Paul, t'as... Oui, il faut convaincre. Il y a l'urgence, mais on veut pas y aller de façon maladroite.
Mm.
On veut pas y aller tout croche. C'est tellement précieux comme message. Juste de crier ça sur le coin de la rue, ça va pas nécessairement être bien compris. Faut que je sois sage dans la façon dont je communique ça. T'sais? Faut que je mette toutes les chances de mon bord. Faut que je comprenne de quoi je parle. Peut-être que je vais devoir étudier un peu. Peut-être que je vais devoir me pratiquer avec un ami. Peut-être que je vais devoir poser des questions pour aller plus en profondeur moi-même sur qu'est-ce que je crois et pourquoi. Mais à quelque part, donc c'est ça un peu la tension, c'est urgent. Puis on est comme, je pense en même temps dans l'idée de bien faire ça, là, par contre, il faut garder en tête que ultimement, ça ne dépend pas de nous, c'est le Saint-Esprit qui est à l'œuvre, right? Donc même si je ne l'ai pas, comme même si j'ai pas lu ma Bible, mettons, puis que c'est pas, j'ai pas genre 3-16 en tête là, quand je parle à quelqu'un, tu sais, peut-être que je me sens pas prête. Peut-être que je me sens pas, comme si je suis particulièrement proche de Dieu en ce moment, puis ça me met un peu, ça me donne un malaise. Peut-être que je me dis, écoute, j'aurais pu prendre le cours là, sur l'évangélisation qui a été offert à mon église, mais j'ai pas été.
Ouais.
Je suis pas qualifiée. Puis on peut penser comme ça, mais ultimement, c'est quoi la nouvelle naissance? Ça vient? Pourquoi est-ce que ça vient? Oui, il faut se préparer à ça, mais ultimement, c'est Dieu qui fait ça, pas moi. Je peux avoir toutes les bonnes réponses de la planète. Je peux être la personne la plus instruite. Je peux avoir 4 doctorats sur l'Évangile. Puis ça veut pas dire que les gens vont venir à Jésus parce que je parle.
Mmh.
Mmh. Pourquoi? C'est Dieu qui agit. C'est Dieu qui nous utilise avec nos forces et nos faiblesses.
Est-ce qu'il y a un appel dans ce cas-là à pas s'inquiéter du résultat?
On revient avec une petite phrase classique de Pouvoir de changer, je pense. dans Pouvoir de changer, une petite phrase qu'on aime bien répéter. C'est quoi le succès dans l'évangélisation? Quand on a une bonne conversation avec un ami, là, puis on dit, hey, est-ce que c'est vraiment une bonne conversation? Est-ce que c'est vraiment réussi? Yes! On est content de ça ou est-ce qu'on est un peu déçu? C'est quoi un peu le facteur? C'est quoi le critère qui vient faire en sorte qu'une conversation a été une bonne conversation ou elle n'était pas si bonne que ça, elle était un peu décevante, tu sais. En fait, le facteur, c'est de faire des pas de foi, donc d'ouvrir la bouche, de partager ce que je crois, d'expliquer pourquoi je crois, même d'agir, de faire en sorte que mes actions viennent corroborer le message que je partage ou les croyances que je crois. Donc, de faire des pas de foi, en faisant confiance à Dieu pour le résultat. En faisant confiance à Dieu pour le résultat. Je ne suis pas en contrôle du résultat. Je pense que les fois où les chrétiens, on s'est vraiment mis dans le trouble, c'est parce qu'on a essayé de contrôler le résultat.
Mmh.
On a oublié, on s'est mélangé par rapport à qu'est-ce qui est mon rôle en tant que croyant, en tant que croyante, et qu'est-ce qui est le rôle de Dieu en tant que sauveur, que seigneur, que souverain, roi de l'univers. Je pense qu'on s'est mélangé. Puis je pense qu'il faut revenir un petit peu à ça aussi pour dire, écoute, est-ce que c'est correct si je fais des erreurs? Voici comment je le dirais, je répondrais à ça, oui et non. Si je fais des erreurs puis je proclame le mauvais évangile, est-ce que je dirais que c'est correct? Non. Est-ce que je proclame est-ce que je suis juste maladroite parce que je me suis mal pratiquée ou j'ai... OK, mais c'est une erreur, mais pas au même point que l'autre, on s'entend. T'as pas péché, nécessairement. À moins que il y a un pattern dans ta vie de paresse, puis que tu fais juste tout le temps céder à la paresse, puis que tu fais... Tu t'informes jamais. Toute ta vie, tu vas passer au fait que tu as besoin d'en apprendre plus puis tu fais jamais rien pour ça. Peut-être que c'est du péché, en effet. Mais c'est pas le même niveau, tu sais. Donc, d'erreur, c'est comme, ah, est-ce que je me suis mal préparée ou j'étais fatiguée cette journée-là, j'étais pas à mon meilleur? C'est pas pareil. Mais Dieu est au contrôle. Est-ce que je le crois vraiment? Mm. Okay. Est-ce que je le crois assez pour dire la vérité dans l'amour, de partager ce message-là, ou de poser des questions aussi? Tu sais, des fois, on s'imagine l'évangélisation, il faut tout que je... C'est comme un grand verre d'eau avec tout le message, puis je dois faire avaler ça aux gens, tu sais. On imagine ça de même, alors que les gens, ils ont peut-être une petite soif. Est-ce que je peux aider la personne à développer sa soif? Est-ce que je peux aider la personne en lui posant des questions? En y partageant des choses intrigantes par rapport à ce que j'ai lu dans la Bible? Ou, tu sais, est-ce que je peux peut-être mettre un peu de sel dans ces petites gorgées d'eau qu'elle prend?
Mm.
Donc, peut-être que des fois, on s'imagine que c'est tout one shot, l'Évangile, mais peut-être que je peux aussi aider la personne un peu plus graduellement. Et en vérité, ça sera probablement un mélange des deux. Il y aura des moments dans ma vie où je vais juste dire, voici un peu ce que je crois, voici un peu ce que Jésus est, pourquoi Jésus est venu, voici ce que je crois. Puis il y a d'autres moments où je vais poser des questions pas mal plus.
Mm-hmm.
Donc, c'est un peu comme une danse où je laisse diriger, je dirige. Ça se fait à deux, là.
Mm. Mm. C'est super important d'être à l'écoute du Saint-Esprit, hein?
Mm-hmm.
Puis de savoir c'est qu'est-ce qu'il faut que je dise en ce moment. Mm-hmm. Est-ce que c'est justement de saisir ça? Je pense que ça vient... Je veux pas dire avec la pratique, mais un peu, tu sais, d'apprendre à écouter le Seigneur, puis de voir, tu sais, comme de lui faire confiance, comme tu dis, Élie, tu sais, puis je pense que pour moi aussi, d'avoir cette humilité-là, de me dire, je sais pas tout à fait ce que Dieu a prévu pour cette conversation, mais let's go, on y va, puis si la conversation a fini, puis j'ai pas eu le temps, là, tu sais.
Mm-hmm.
De faire tous les points. Oui. J'ai même peut-être pas... Non, mais sérieux, tu sais, où j'ai pas... Où la personne, mon amie, déménage. Puis, tu sais, elle a commencé à être curieuse, là, tu sais. C'est aussi de remettre cette personne-là à Dieu. Comme ouais. T'as dit, Élie, de se rendre compte que j'ai... C'est pas moi qui décide, c'est pas moi qui, ultimement, convainc. Puis qui sait ce que Dieu a prévu, mais moi, j'ai été fidèle avec le moment... T'sais, que j'ai eu, j'ai partagé ce que Dieu voulait. Puis ça, c'est dans le meilleur. On se rend compte qu'on a tout à apprendre là-dessus. Mais tu sais, je pense que c'est ça l'espoir au final. Là.
Ça peut être une belle définition ou section à rajouter un peu à notre conception. Donc, qu'est-ce que ça veut dire de réussir dans le partage de l'Évangile? Ça veut aussi dire d'être fidèle dans les choses que Dieu nous donne. Être fidèle dans la capacité que Dieu nous donne. D'être fidèle... dans les relations que Dieu nous donne, dans les amitiés, les membres de notre famille, etc., les liens de confiance, d'être fidèle aussi dans les occasions qu'on a.
Mm-hmm.
Si on n'a pas c'est pas parce qu'on est proche de quelqu'un qu'on a toujours l'occasion, si ce n'est que parce que la personne n'est pas toujours ouverte.
Ouais.
Donc, tu sais, d'être fidèle dans le contexte que Dieu nous donne, avec ce qu'on a, avec ce qu'on peut faire. Je pense que c'est ça que Dieu nous appelle à faire. Dieu ne nous appelle pas à tordre des bras, là. À être fidèle et à lui faire confiance que Dieu, il va agir, il répond aux prières, puis que Dieu, il est capable d'agir. C'est des fois, je pense qu'au final, je le crois pas tant que ça. Puis c'est là que je suis tentée de forcer ou c'est là que je suis tentée de décourager et juste d'abandonner. Donc, à quelque part, ça revient, hein? Est-ce que moi, je crois à l'Évangile? Je suis fatigante avec ça aujourd'hui. Est-ce que moi, je crois à ce message-là dans lequel j'ai cru et que j'annonce aux gens moi-même, tu sais? Est-ce que je crois que Dieu est puissant à ce point-là? Est-ce que je crois qu'il règne et gouverne l'univers puis qu'il est en train de faire toutes choses pour transformer toutes choses en bien, de concourir toutes choses en bien pour ceux qu'il aime? Est-ce que je crois ça pour de vrai? Donc, je vais y faire confiance. Donc, je vais remettre mon ami quand il déménage puis j'ai plus accès à lui. Je vais le bénir pour la suite. Sachant que Dieu est fidèle, il sera fidèle dans sa vie et je vais découvrir par la suite peut-être un jour. Tu sais, comme, c'est un peu ça, je pense, la posture de foi et d'espoir. Mais on peut seulement avoir ça si on croit dans le message de l'Évangile.
Fait que finalement, il y a vraiment il y a quelque chose de dynamique là-dedans où est-ce que finalement nos actions reflètent un peu notre niveau de foi. Notre niveau d'évangélisation reflète notre niveau de foi. Puis ça peut servir aussi de baromètre pour voir où est-ce qu'on en est réellement dans ce qu'on croit.
Oui, je crois que ça peut être un bon baromètre parce que, quelque part, si j'ai pas le désir, ben ça m'indique quelque chose par rapport à ma foi.
Voilà.
Si j'ai les occasions, mais je les saisis jamais, ça peut peut-être m'indiquer quelque chose par rapport à ce que je crois. Tu sais, donc je pense que c'est intéressant d'utiliser ça aussi. Je pense que des fois, on évalue notre santé spirituelle uniquement sur la base de « est-ce que je lis ma Bible à chaque jour, puis est-ce que je vais à l'église le dimanche? » Mais je pense qu'il y a d'autres facteurs qui peuvent nous aider à déterminer la vitalité de notre foi.
Mais qu'est-ce qui arrive si mon amie avait juste rien savoir? C'est pas juste que je me suis pas rendue, là. Mm-hmm. Mais il faut que je le dise, parce que je pense que des fois, c'est ça ma peur, tu sais. Qu'est-ce qui arrive si je lui en parle? Parce que l'opportunité s'est présentée, puis que la personne, c'est plus que juste genre, je suis pas curieux, là. Tu sais, c'est que c'est comme, je veux rien savoir de ta foi, là.
Mm-hmm.
On pourrait dire réfractaire, presque.
Ouais.
Ouais.
Tu sais, puis j'en ai des amis dans ma vie que, tu sais, ils savent très bien ce que je crois, là. Ils ont entendu l'Évangile, puis ils veulent rien savoir. Puis des fois, tu sais, ça me fait peur de me lancer ou... Puis en même temps, je me dis, qu'est-ce que ça fait? Mais, en tout cas, ça m'inquiète.
Je sais tellement ce que tu veux dire, puis moi-même, je le vis. Des moments où même, je me surprends à penser que je préfère presque pas... Mais là, ça, c'est moi dans ma nature pécheresse, là. Ce n'est pas une recommandation, guys, OK? Écoutez, comprenez-moi bien. Des fois, je me surprends à penser que si j'y annonce pas, la personne est moins coupable.
Ouais.
Ou elle... Tu comprends? Elle est...
Ouais. Est moins responsable.
Elle est moins responsable parce qu'elle n'a pas entendu le message, tu sais. Puis là, j'ai peur d'apprendre son cœur est où.
Mm-hmm.
J'ai peur d'avoir le verdict un petit peu de est-ce que la personne, elle va changer ou pas? Est-ce qu'elle va se mettre du bon côté? Est-ce qu'elle va changer d'allégeance ou est-ce qu'elle va rester du côté du côté qui perd au final dans la fin de l'histoire, tu sais? Ça me fait peur de découvrir ça.
Oui.
Je pense que il y a différentes choses que je pourrais dire par rapport à ça. La première chose, c'est que j'ai beaucoup de compassion pour ce que tu viens de me décrire, parce que moi-même, je vis ça avec plusieurs amis et membres de ma famille.
Mm-hmm.
Donc, c'est pas quelque chose d'abstrait du tout.
Mm.
Quelque chose de réel. Et c'est quelque chose qu'au final, je sais pas c'est quoi la fin de l'histoire. Oui, j'ai foi que Dieu va changer à sa manière, qu'il va être à l'œuvre. Je sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Je sais qu'il y a des gens qui acceptent pas le Seigneur en fin de compte, là, tu sais. Je ne contrôle pas le résultat. À quelque part, c'est une bonne nouvelle, c'est Dieu. À quelque part, je sais pas qu'est-ce que Dieu a prévu, hein? Et ça peut me faire peur. Et là, je suis comme, man, je veux tellement que cette personne-là vienne à Jésus. Qu'est-ce que je fais si elle vient pas? Qu'est-ce que je fais si ma ou mon bien-aimé n'est pas au ciel avec moi? Donc, premièrement, j'ai beaucoup de compassion. Et je pense qu'on peut pas considérer ça sans ressentir la souffrance, la douleur, la peur, qui est un peu comme inhérente à la question. L'autre chose, c'est justement, comme on disait, d'être fidèle avec ce que Dieu nous donne. Peut-être que la personne est fermée au point qu'elle veut même pas en parler avec toi. J'ai des gens comme ça dans ma vie. Eh bien, peut-être que je peux pas leur en parler, mais je peux prier. Peut-être que je peux pas leur en parler tout de suite, maintenant, là, mais peut-être que je peux continuer à refléter l'Évangile dans ma vie et à changer pour le mieux, pour eux. Tout à coup, ma sanctification devient importante. Elle l'était importante, là, mais dans cette conversation-là de l'évangélisation, ma sanctification devient aussi un outil de témoignage, devient une puissance. Alors que avec certaines personnes, je ne peux pas. Je peux le faire, puis la personne va dire « arrête, je ne veux rien savoir ». Elle va juste me couper puis s'en aller, se retirer de ma présence. Tu comprends, là? Donc, à quelque part, qu'est-ce que je fais? Mais je peux prier. Je peux continuer de me laisser transformer par l'Évangile en parole et en action. Je peux continuer de guetter le timing de Dieu. Il y a des timings où même ces personnes-là, on va pouvoir parler d'un sujet qui est quand même connexe à l'Évangile, que ça leur apporte, même si c'est pas de ça exactement dont on parle. Je peux insister sans forcer, je peux persévérer dans l'espoir que Dieu y est capable. Si ça n'arrive pas, c'est pas parce que Dieu n'est pas capable.
Un bon point.
Donc, je dois persévérer dans l'espoir que me donne l'Évangile. Je dois puiser mes ressources dans l'Évangile pour me permettre d'avancer dans cette situation très difficile. Je suis vraiment encouragée par une histoire, en terminant. Une histoire, je pense que c'est Georges Müller. Georges Müller, un missionnaire allemand, missionnaire aux Juifs tout d'abord en Grande-Bretagne. Par la suite, il a fait... Il était responsable d'orphelinat.
Mm-hmm.
Je ne me rappelle plus dans quelle ville. Mais lui, il a toute une histoire. Juste ça, ça pourrait valoir un épisode, honnêtement. Là. Juste de parler de sa vie et des aventures qu'il a vécues. Mais lui, il avait des amis proches. Je ne me rappelle plus au nombre de combien. Mais là, il priait pour leur salut à chaque jour. Il priait pour leur salut à chaque jour. À chaque jour. À chaque jour. Je me rappelle pas si pendant son vécu, il y en a quelques-uns qui sont venus à Jésus ou pas du tout. Mais c'était pas toute la majorité définitivement. Puis là, lui était découragé. Non, je prie, je persévère. Il est mort. Il est mort sans avoir vécu, sans avoir vu certains de ses amis venir à Christ. Mais ces gens-là, croyez-le ou non, ils ont fini par venir à Jésus après sa mort. Donc lui, il est mort sans avoir vu le fruit de sa prière. Mais 100% des gens pour lesquels il a prié, qui a insisté, qui a persévéré pour eux, ils sont venus à Jésus au final, pour de vrai.
Ouais, puis
c'est fort, là. Tu sais, puis je suis comme, ouais. Est-ce que moi je crois ça? Est-ce que moi je crois que je peux aller à la tombe? Puis parce que j'ai prié, parce que j'ai insisté auprès de Dieu, parce que j'ai intercédé. L'intercession, c'est la job, c'est une job de prêtre. C'est j'agis pour, à la place pour les autres. Je dis, non, Seigneur, pardonne-les. Moi, je vais faire les démarches pour qu'eux soient pardonnés, tu sais. C'est un peu ça, la job de prêtre. C'est ça, quand on intercède, on est comme, Seigneur, aie pitié de eux. Jésus a fait ça du haut de la croix. Seigneur, pardonne-les. Ils savent pas ce qu'ils font. Et là, quelque part, c'est ça. J'intercède pour eux. J'intercède pour eux. Change leur cœur. Arrache-les de l'enfer. Change. Fais quelque chose. Utilise-moi. Fais quelque chose. Quelque part, ça a été sa prière pendant toute sa vie, puis il n'a pas vraiment vu le fruit de ce qu'il a prié. Mais ça l'a quand même arrivé par la suite. Donc, à quelque part, moi, c'est un profond réconfort pour moi avec les personnes dans ma vie où je ne pense pas qu'ils vont venir. Comme à moins d'un miracle que je ne le vois pas en ce moment, tu sais. Ça serait pas... Il y a rien dans leur vie qui m'indique que ça va arriver. Mais je m'accroche à Dieu. Puis je pense que je vous encouragerais un peu à faire de même. Mm. Et même mieux que moi, à quelque part.
Là, je vais faire une autre confession, là. Parce que je t'entends, puis ça m'inspire. Mais je me rends compte qu'il y a un côté de moi que, oui, j'ai peur que la personne, elle rejette le message. Mais des fois aussi, j'ai juste peur qu'elle me rejette moi. Mm. Tu sais, comme... T'sais, là, on parle d'une situation où la personne continue d'être notre amie. Là. Mais si je suis honnête, bien que, oui, j'ai compassion pour mes amis, puis je prie pour eux, puis ça me fait de la peine quand ils veulent pas comme accepter le Seigneur, il y a un côté de moi aussi qui hésite beaucoup de partager ma foi parce que j'ai sincèrement juste peur de perdre une amie. T'sais, de me faire niaiser là, ou de me faire cancel ou de me faire, t'sais, d'utiliser tous les mots que vous voulez, là, mais je pense qu'il y a un côté de moi aussi que c'est ça, j'ai peur du rejet.
Dans ça, il y a deux choses. La première, c'est de se rappeler que d'être en désaccord ne veut pas nécessairement dire que la personne va nous rejeter.
Mm-hmm.
Puis je pense que je suis en train de lire un témoignage et la personne qui est venue à la foi, c'est un peu l'histoire de son chemin de foi à lui. Puis lui était ami, était bon ami avec un chrétien. Puis la raison pourquoi ils ont été capables d'être en désaccord puis de s'envoyer promener même, c'est parce qu'ils étaient obligés de se revoir comme parce que le lendemain, ils avaient cours ensemble puis ils vivaient carrément ensemble. Sa chambre était juste à la fin du corridor là, dans leur résidence. Ils étaient tout le temps, ils entraient tout le temps en contact. Ils n'avaient pas le choix là, de se tolérer puis de se pardonner. T'sais. Donc, quelque part, c'est comme si la proximité de la relation a permis que même s'il y a eu des confrontations, mais que la relation tienne quand même. Mais même ça, ça ne veut pas dire que ça va être le cas. Tu sais, mettons, je pense à une autre amie, une autre personne que j'ai rencontrée lors de mes voyages et qu'elle, son témoignage, c'est qu'en venant à Jésus, sa famille l'a rejetée complètement, l'a jetée dehors de chez elle. Puis son père lui a même fait des menaces de mort. Donc, dans certaines cultures, en Orient, au Moyen-Orient, par exemple, c'est des choses qui peuvent arriver, malheureusement. Et quand on invite ces gens-là à venir à Jésus, c'est essentiellement ça, notre invitation. On les invite à se faire rejeter de leur communauté. C'est extrêmement difficile. On ne peut même pas imaginer ça en tant qu'Occidentaux. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Jésus s'est fait rejeter et a rappelé à ses disciples qu'eux aussi allaient se faire rejeter pour suivre Jésus. Dans leur cas, c'était très réel, c'était très concret. C'était plus que... Mm-hmm. Nous, on est peut-être discriminés au Québec, là, par moment, mais persécution, violence, on n'est pas rendu là. Et c'est bien. J'espère qu'on ne se rendra pas là, tu sais. Mais tu comprends? Eux, c'était violent. Ils sont morts pour leur foi. Hey, ça, c'est le rejet total. Comme rejet à différents niveaux, là.
Ouais.
Comme... Mais c'est de... Puis Jésus, c'est quoi sa promesse? C'est quoi la promesse de l'Évangile? Jésus, à un moment donné, sa famille, il vient essayer de le trouver. Puis là, ils sont un peu inquiets par rapport à Jésus parce que Jésus, écoute, là, il guérit des malades. Lui, c'est un charpentier de métier. Il me semble qu'il est hors de son domaine. Là. T'as pas étudié là-dedans, Jésus. Il passe ses journées à servir des foules tellement qu'il est débordé. Jésus, tu prends pas le temps de manger. Dans cette culture-là, manger, c'est écoute, c'est sacré, là. Tu ne peux pas manger. Donc, Jésus, là, t'es fou. T'es rendu fou. Viens-t'en, on va aller te donner de la bonne soupe au poulet chez nous, là, puis tu vas revenir mieux, puis là, ça va aller bien, OK? Jésus, ça va pas. Puis là, lui, il dit... Là, en fait, c'est les personnes qui disent « Ah, ta famille te cherche. » Puis Jésus va leur dire « Qui est ma famille? N'est-ce pas cette personne-là à côté de moi? N'est-ce pas... C'est qui ma famille? » Qui est ma mère? Ma mère, mon père, mon frère est la personne qui fait ma volonté. Donc, Jésus vient redéfinir, même si on se fait rejeter par notre famille, par exemple. Jésus nous promet qu'en lui, que dans l'Église, on retrouve une famille. Même si je perds des amis, alors que ça ne m'est vraiment pas arrivé souvent, là, par rapport à un enjeu d'évangélisation, là, ben écoute, je retrouve un ami en Jésus et j'ai l'Église.
Mm.
C'est de revenir à ça. Et je dis pas que c'est facile, là, le témoignage de la personne qui s'est faite rejeter de sa famille, elle m'en parlait avec des larmes. Elle pleurait pendant qu'elle m'en parlait, alors qu'elle était beaucoup plus âgée que moi, puis que ça a eu lieu quand elle était jeune adulte. T'sais. Elle pouvait pas m'en parler sans pleurer. C'était extraordinairement douloureux pour cette personne-là. Mais elle m'a dit... La chose suivante, elle m'a dit « J'ai trouvé dans les frères et les sœurs une plus grande famille encore que ce que j'ai jamais goûté dans ma famille d'origine.
Mm-hmm. »
Puis, crois-le ou non, Elisabeth, mon père, il a recommencé à me parler. C'est miraculeux.
Mm.
Donc, elle l'espère encore pour son père, même si c'est extrêmement tabou et touché. Il faut garder ça en tête, là, OK? Mm. Donc, c'est un peu ça l'encouragement que je veux donner. Puis le fait que... Puis on ne sait pas qu'est-ce que Dieu va faire avec ça, mais il nous appelle à lui faire confiance.
Wow, merci, Ellie.
Ouais, merci.
J'ai des questions est un podcast de Convergence Québec et Pouvoir de changer étudiants. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oublie pas de t'abonner à ce podcast sur ta plateforme préférée pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et pour plus de contenu, des photos, des citations et pour apprendre à se connaître, rejoins-nous sur Instagram ou Facebook en cherchant g.d.question. On se retrouve bientôt pour répondre à une nouvelle question.